L'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, l'instant addicto avec Sophie Deloume. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une maman. On continue dans nos témoignages en addiction. On a eu un témoignage cannabis, témoignage alcool dernièrement. Et là, j'ai le plaisir de pouvoir recevoir un témoignage de proche. Donc, bonjour.
Bonjour Sophie.
Bonjour Pascal. Donc, on va faire ce témoignage par rapport à votre fils qui est addict. Dans tous les cas, merci de votre témoignage et de votre courage de pouvoir nous donner cette parole. C'est jamais simple. Donc, on a changé le prénom de votre fils. Il s'appelle, on va dire, on a pris court.
Thomas.
Et par rapport à Thomas, je vous reçois aujourd'hui, et je vous recevrai la prochaine fois aussi. On s'est dit qu'on allait faire une émission, une chronique en deux temps. Ce premier temps, peut-être plus découvrir un peu la trajectoire, le parcours de Thomas par rapport aux différents produits psychoactifs qu'il a pu rencontrer depuis son adolescence jusqu'à maintenant. Dans un deuxième temps, voir un peu au niveau émotionnel, comment vous, en tant que maman, vous avez pu appréhender, comment vous avez pu faire face, comment vous avez pu faire que vous pouviez. Donc par rapport à Thomas, quel âge maintenant, votre fils ?
Il a 39 ans.
Et au niveau du parcours addictif de votre fils, si on vous écoute, ça a commencé à quel moment ?
Il a commencé au cannabis à 14 ans et demi, 15 ans. Voilà, j'ai pas tout de suite vu, mais ça n'a pas été très long, puisque je connais bien en fait le corps de mon fils, enfin voilà son ressenti. J'ai senti très rapidement qu'il était hors sol, qu'il avait en fait un comportement de niaiserie, surtout de ricanement, de pas branché quand je l'écoutais. Enfin, donc ça m'a mis énormément la puce à l'oreille très très vite.
Et là, vous avez vu ce changement, comment, là, vous disiez, il était hors sol, pour que tout le monde, les auditeurs, auditrices puissent comprendre, hein. Qu'est-ce que vous entendez par hors sol? Déjà, au niveau de son comportement, de son corps, comme vous dites, ce changement, comment vous l'avez senti?
Eh bien, quand on parle à quelqu'un, on sent quand il écoute ou qu'il écoute pas. Là, quand je dis hors sol, il me disait oui, mais en fait, il était pas là. C'est comme une impression d'envoler, quoi.
D'accord.
Pas présent.
Pas présent et même au niveau des choses un peu plus extérieures par rapport, là on était sur sa corporité, mais par rapport à l'extérieur, au niveau de la scolarité, est-ce que vous avez senti en tant que mère, comment ça se passait pour Thomas ?
Alors j'ai presque envie de raconter une anecdote qui pourra déjà, d'avoir une petite idée du caractère. Déjà à l'âge de 7 ans et demi, c'est une première fugue en fait à la sortie, d'une classe de CE2. Il avait été à mon avis très indiscipliné. C'était déjà un petit garçon pas facile à tenir en place et pas difficile à mettre dans les cadres déjà. Voilà, une grosse énergie.
Il était dur à canaliser.
Déjà difficile à canaliser. Et donc voilà, c'est ça, la première fugue. Donc on n'était pas encore divorcé avec son... pas divorcé avec son père. C'était pas la joie dans le couple, mais bon, voilà. On était en pourparlers, c'était un consentement mutuel de divorce. Pas eu de drame, je dirais, dans le couple, mais pour le petit, oui, bien sûr.
Répercussions par rapport au petit. Oui. Et vous pensez que ce signe au niveau de la fugue par rapport à votre fils, que c'était un signal par rapport au divorce ?
Je ne mettrais pas ça sur ce compte. Je pense que vraiment, c'était déjà un enfant en recherche de liberté, enfin, je dirais plutôt en excès de liberté, puisque vraiment son comportement tendait déjà beaucoup à être sans tenue, quoi. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas...
Hors cadre,
vraiment. Déjà tout petit.
Il y avait
déjà
des troubles de concentration au niveau de la primaire, si on remonte la primaire, faire son analyse, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il y avait des troubles d'attention
Oui, bien sûr. Le faire asseoir pendant plus d'une heure sur un banc d'école, c'était un supplice pour lui. C'était vraiment difficile. Et donc, pour se maintenir en fait en action, il faisait le pitre, donc dissiper la classe. Donc, ça devenait un sujet... plutôt gênant.
Il était clownesque.
Oui.
Donc, trouble de l'attention, plutôt clownesque, qui était dans l'évitement et dans la fuite à travers la fugue qu'il a pu déjà faire tout petit, sans qu'on analyse ici. Donc, les résultats scolaires...
J'étais mis en alerte dès la maternelle. Il aimait déjà être entouré, en fait, déjà. Donc, voilà. Enfin, je rigolais pas trop à l'époque, parce que c'était déjà un gros questionnement pour moi.
Hypersensibilité. Il était clownesque, mais est-ce qu'il était... Vous sentiez une hypersensibilité
très,
chez votre
fils ? Très sensible. Très sensible. Il savait très bien à qui il avait affaire, tout de suite.
Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que lui, quelque part, les émotions retentissaient beaucoup chez lui ? Vous le ressentiez, ça ?
Alors, oui, tout de suite et immédiatement. Mais je disais, c'est comme les poils Tefal, vous savez, ça glissait très vite, ça tenait pas.
On va faire une pause musicale. Vous avez choisi quel morceau ?
J'ai choisi Pomme comme artiste et La Rivière.
On écoute. Donc si on reprend par rapport à la trajectoire de votre fils Pascal en tant que maman, donc au niveau, on a vu qu'il y avait cette rencontre avec le, on a vu un peu le profil qu'il pouvait avoir, les troubles de l'attention, l'hypersensibilité, le côté un peu troublion, Clunex a attiré l'attention, donc vous avez été interpellé déjà très tôt à la maternelle. Après vous avez senti ce côté un peu hors sol que vous nous disiez, la rencontre avec le produit cannabis. Bon, il y a l'odeur aussi, il y a les pupilles dilatées, il y a des choses comme ça. On sait que ça apporte aussi un gros trouble de l'attention, de concentration, hein, les effets du cannabis. Est-ce que la scolarité, la sociabilité de votre fils à la préadolescence, comment vous avez pu essayer de réagir par rapport à ça?
Bien, déjà, c'est de toute façon, c'est déjà les établissements scolaires qui vous font réagir, puisqu'on est convoqué pratiquement toutes les semaines. Enfin, j'étais convoquée très rapidement, en fait, pratiquement toutes les semaines. Hein. Donc, c'était pas grave, mais j'étais mis en alerte sur le comportement. Donc, par cette puissance de vie qu'il pouvait avoir et être, vu dans cette disposition. Et puis, alors, je reviens sur les symptômes, si je peux dire, oui. Le trouble de l'attention, la pupille dilatée, ça c'était un peu plus tard, je ne l'ai pas vu tout de suite parce que je ne pense pas que ça se fasse tout de suite, je pense que c'est peut-être en décalé peut-être, je ne sais pas, enfin en tous les cas je m'en suis aperçue un peu plus tard après.
Comment vous avez essayé de discuter avec lui, vous avez interpellé le papa, bon après il y a les convocations à l'établissement mais ils ne sont pas là pour être médico-social, hein, les établissements scolaires, hein. Comment ça s'est finalisé jusqu'à ce qu'il soit déjà jeune adulte?
Il n'a pas été question en fait de cannabis avec l'éducation nationale, ça n'a jamais été évoqué puisque voilà, il n'a pas été pris la main dans le sac, etc. C'était surtout sur son comportement d'exister, d'être existant en fait auprès de ses camarades. Et je pense que les fréquentations qui ont suivi ont fait qu'il y a eu du dérapage.
D'accord, ça a été compliqué après par rapport à un environnement qui était plutôt toxique.
Oui, je crois que malheureusement, c'est une grande, enfin c'est pas une généralité, mais ça devient une généralité malheureusement.
Là, on peut se dire dans notre premier volet, notre première rencontre, Pascal, hein, dans votre témoignage par rapport à votre fils, on sait qu'il y a eu le cannabis à la préadolescence. On se rend compte que maintenant il a 39 ans. On reviendra dessus par rapport à son évolution, mais après, pas une question de basculement, mais après, il y a la rencontre de la cocaïne. C'est pas tout le monde qui bascule sur un autre produit. On peut se dire, il y a la rencontre avec un produit, puis ça s'arrête là ou non, en fonction de l'âge et de l'évolution.
Je voudrais préciser qu'à un moment, en fait, on communiquait sur ce fait. Et en fait, il m'a carrément scotché en me disant mais je veux savoir ce que c'est et je veux en prendre pour savoir ce que c'est. Donc ça a été un gros choc pour
moi. Une provocation ? Vous l'avez pris comme une provoque ?
À l'époque, peut-être pas. Avec le recul, je me dis, c'était fort de café, quoi.
Oui, c'est fort de café. Il avait quel âge ?
Oh, il avait bien usé déjà du cannabis. Je pense qu'il devait avoir entre 16 et 17 ans.
Ah oui, donc il a touché à la cocaïne relativement jeune.
Ah non, c'était bien après la cocaïne.
Ah d'accord,
cocaïne.
Pardon.
Je pense qu'il a dû passer par d'autres substances que je n'ai pas connues à l'époque.
Oui. Donc, et vous, de ce côté-là, lui, au niveau de sa scolarité, vous avez essayé de rattraper, de raccrocher les wagons, de faire comme vous pouviez. Oui. La présence du papa, est-ce qu'elle était là ou non?
Non, donc divorcé, son père n'était pas du tout dans la région.
D'accord.
J'étais quand même entourée au niveau familial. La famille, mon ex-belle-famille était quand même très, très présente. Voilà, il y avait quand même un entourage familial, mais pas pour, pas pour forcément sévir ou mettre encore un peu plus de cadre. Tu fais comme tu peux, ma fille, quoi. Enfin, voilà, quoi, c'est...
Et vous, vous faisiez comment, en plus, c'est une époque, on va dire, il y a quand même plus de 20 ans en arrière. Ouais. Je veux dire, maintenant, voilà, il y a encore une autre approche, même si ça fait encore peur, il y en a encore du... un peu de mal de temps en temps, je trouve, à aborder les addictions. Je pense qu'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans en arrière, au niveau de la scolarité, il a pu faire une scolarité.
Il est allé en fait jusqu'en 3e. Et puis après, il est sorti de la scolarité en fait, classique. Il a fait un apprentissage en chocolaterie qu'il a pas, il a pas été jusqu'au bout. Il a fait un CAP petite enfance. Et il a fait beaucoup d'essais, beaucoup d'expériences, en même temps très riches, je dois dire que les rencontres aussi, pour ce qui me concerne, ont été plutôt sens, ont donné du sens et beaucoup d'ouverture, en fait, à plus de compréhension. Mais en fait, c'est toujours pareil, ça fait quand même pas mal d'années, et surtout avec le recul, je me dis que c'était pas peut-être la bonne solution, parce qu'on cherche, en fait, je pense que j'étais encore dans une période, comme on le disait, de déni, c'est-à-dire on veut trouver une solution pour que ça s'arrête, alors que c'est pas la bonne solution, bien sûr que non.
Je pense qu'en tant que mère, vous pensiez que comment agir par rapport à votre fils. Vous saviez que ça allait pas, que c'était aussi une forme d'autodestruction par rapport à une addiction. Oui. Ça peut être aussi encore plus de délinquance. Il a eu le produit et les mauvaises fréquentations, votre fils. Mais on sait qu'après, en tant que parent, est-ce que vous êtes sentie impuissante?
Totalement.
Démunie, impuissante?
Totalement. Oui, ça c'est assez terrible de constater qu'on n'a pas la main dessus, malgré toutes les promesses que mon fils pouvait me faire. Je recommence pas, je fais pas, maman, je t'aime, pardon, enfin tout ça, bien sûr, je l'ai entendu 100 fois, et ça n'enlève en rien au lien affectif et d'amour que j'ai, bien sûr, mais voilà, il était pris dedans, il était dedans.
Merci Pascal, à la semaine prochaine.
Merci Sophie.
L'instant addicto.